Villiers de l'île Adam, nouveau conte cruel, le chant du coq. Le château fortifié du préfet romain Ponce Pilate était situé sur la pente du Moria. Celui du tétrarque Hérode s'élevait éblouissant au milieu de jets d'eau vives et de portiques sur le mont Sion, non loin des jardins de l'ancien grand prêtre Arnas, beau-père de ce Joseph surnommé Caïphe, 68e successeur d'Aaron, dont le lourd palais sacerdotal se dressait également au fait de la ville de David. Or, le 13 du mois de Misan, 14 avril, de l'an de Rome 782, en 33 et un temps de notre ère Jésus-Christ, un détachement de la cohorte d'occupation, savoir 555 hommes prêtés au grand prêtre en cas de sédition populaire par le préfet, cerna silencieusement sur les 10h30 du soir les abords montueux des Oliviers. À l'entrée de ce sentier, que coupait plus haut l'inégal ruisseau du Cédron, le chef des piquiers du temple, Annaïus, causait sans doute avec les centurions. Il attendait ses agents d'Israël, auxquels seuls il devait faire livrer passage, en vue de l'arrestation d'un factieux en vogue, de ce magicien de Nazareth, du fameux Jésus que l'on savait s'être réfugié là cette nuit. Bientôt, sous le clair de lune pascale, apparut, dévalant du faubourg d'Orphée, un gros de policiers pourvu de bâtons, d'épées, de cordes. Ils étaient commandés par les deux émissaires du Grand Conseil, Acacias et Ananias, qu'assistait un porte-lanterne, Malchus, homme de confiance de Caïphe. La troupe avait pour guide le plus récent disciple de ce Jésus, un homme originaire de cette petite ville de Cariote, sise dans la tribu de Judas, sur les bords de la mer Morte, à la limite occidentale de Gomorre, l'ensevelie, bien qu'il y eût aussi aux frontières un certain autre bourg moabite appelé Kedoth, qui étageait ses quelques feux non loin de l'étang du dragon. L'homme en question était le seul disciple juif, les onze autres étaient galiléens. Le maître lui avait lavé les pieds avant de consacrer la Pâque avec les disciples. Annaïus était ce même sar ou chef des gardes préposés aux nocturnes inspections des bâtiments du temple. 42 années plus tard, lors du sac de Jérusalem, il fut traîné à Rome, chargé de chaînes, malgré ses 75 ans, et jeté aux pieds meurtriers de l'empereur Claude. Pour Acacias et Ananias, faux témoins à l'heure suivante, le Talmud, sans nul détour, les déclare délateurs à la solde du Sanhédrin, comme ayant mission d'épier les pas, actes et paroles de Jésus. Quant à leur guide, son prophétique surnom signifie en araméen, en syriaque et en samaritain, non seulement son lieu de naissance, mais, selon qu'on le prononce, il veut également dire l'usurier, l'homme de mensonge, le trahisseur, la mauvaise récompense, la ceinture de cuir, porte-bourse, et surtout le pendu. Le surnom résume la destinée. Le groupe donc redescendit peu après, emmenant un homme de très haute taille dont les mains étaient liées. Jésus, en effet, était d'une stature fort élevée entre celle des humains, car lors de la découverte de la vraie croix par l'impératrice Sainte Hélène, l'on mesura l'intervalle entre les trous creusés par les clous des mains, ainsi que la distance entre ceux des pieds et le point d'intersection central des deux traverses. Ces traces attestaient un patient d'une grandeur corporelle pouvant dépasser 6 pieds modernes. Les légionnaires du préside Ponce Pilate escortèrent l'escouade et le divin prisonnier jusqu'à l'opulente demeure d'Annas, puis regagnèrent le fort Antonia. L'ancien grand prêtre, n'ayant plus qualité pour statuer, put renvoyer la cause devant le Sénat des 70 que présidait son gendre. Ce collège, au mépris encore de la loi, venait de s'assembler sous les lampes de minuit chez Caïphe, dans la salle du conseil. La loi, ne prescrivait-elle pas aussi que le pontificat majeur ne pouvait être conféré qu'à vie? Oh, qu'importait! Aujourd'hui, les docteurs, sciemment oublieux du texte éternel, déposaient et remplaçaient, parfois dans le même semestre, au souffle d'influence de toute nature, les grands prêtres de Dieu. De là, l'ironie sombre de l'évangéliste saint Jean, Caïphe était grand prêtre cette année-là. Or, Simon-Pierre et saint Jean, depuis les oliviers, avaient suivi, dans les illicites détours de cette marche, ceux qui s'étaient saisis du Fils de l'homme. À l'arrivée au tribunal de Sion, l'évangéliste, qui était connu chez le grand prêtre, pria, par trouble, la gardienne du portail de laisser Simon-Pierre pénétrer dans la tour carrée ou atrium du palais, puis, y quittant l'apôtre, courut prévenir Marie, la vierge veuve, ce qui devait s'être déjà rendu saint Jacques, fils de Cléophas, frère de saint Joseph. Saint Jacques était l'un de ces orphelins recueillis, selon la loi, sous le toit de leur oncle défunt, et qui, élevés avec Jésus, presque même de son âge, furent appelés depuis ses frères, d'après la coutume juive. À dater de cette heure-là, saint Jean ne quitta plus la Sainte Mère, qui, 11 heures plus tard, devait devenir la sienne. Au centre des portiques, en face des degrés de marbre jauni qui conduisaient au porche de cèdre de cette salle du premier étage où fut jugé le Sauveur, les gens de Caïphe, mêlés de gardiens, de soldats juifs, se trouvaient assis ou groupés autour d'un épais brasier de charbon, car en Orient, les nuits d'avril distillent de malsaines bruines des glacieux raciales rosées. Pierre vint aussi parmi eux se chauffer. Ceci d'instinct, les pensées confuses, déconcertées, le regard trouble, la flamme éclairait sa face. Il considérait cette porte fermée. Et de l'au-delà de cette porte, il entendait, l'on entendait dans l'atrium, les rumeurs, les sonores vociférations de l'assemblée. Les prêtres de la chambre inférieure, déclarés uniquement aptes au sacrifice, excitaient les satellites du seuil à frapper celui qu'ils accusaient. Les scribes, docteurs de la loi, ne parlaient avec des clameurs et d'obligatoires grincements de dents que d'appliquer cette loi, ce qu'ils enfreignaient à cet instant même, puisque le Nassi, souverain juge pouvant seul décréter la mort, n'avait pas été convoqué par défiance. Les anciens, enfin les archiprêtres de la chambre haute, créatures d'Annas, qui, dérision, avait fait nommer successivement grand prêtre ses 5 enfants, sans compter même ce gendre, imposait silence à Joseph de Arimathaïe et du pharisien Nicodémas, en hébreu Bonaï ben Gorion, bien que Gamaliel d'alors, tenant tête au sagan Annas, exigeât la libre défense. Tout à coup, sur l'interrogat précis de Caïphe, l'on entendit la réponse éternelle « Vous l'avez dit !» Elle tomba tranquille dans le grand silence. Puis aussitôt des cris « À mort ! À mort !» et le bruissement des vêtements déchirés. Maintenant, en cette cour du palais prédestiné, autour du brasier dont les lueurs pâlissaient avec le petit jour, à quelques pas sous cette portière terrible qu'il regardait encore, Simon Pierre, pour se délivrer des questions dont le pressaient depuis quelques instants servantes et soldats, cherchant enfin à demeurer libre et par ainsi pouvoir, ô candeur de l'homme, se rendre utile, on était arrivé de là de négations d'abord vénielles, puis d'un reniement plus grave, à cette éperdue parole « Je jure que je ne connais pas cet homme !» Et en cet instant, selon la prophétie du Sauveur, le coq chanta. Longtemps après la destruction de Jérusalem, au cours de l'un des premiers siècles de l'Église, il s'éleva, paraît-il, au sujet de ces trois mots, s'il faut en croire une tradition latine provenue de vieux cloîtres, une controverse des plus étranges entre des Juifs de Rome et quelques zélateurs chrétiens qui s'efforçaient de les catéchiser. « Un coq chanta, dites-vous ? » s'écrièrent les Juifs avec des sourires. « Ils ignorent donc notre loi, ceux qui ont écrit cela. Vous-même la connaissez-vous ? » « Sachez que l'on n'eût pas trouvé un coq vivant dans tout Jérusalem. Celui qui eût introduit dans la cité de Sion l'un vivant de ces animaux, surtout la veille de ce jour de la Pâque où l'on immolait sur les parvis du temple des milliers d'holocaustes, eût encouru comme sacrilège la lapidation. Car la loi motivait sa rigueur sur ceci, que le coq, prenant sa vie sur les fumiers qu'il pique et fouille de son bec, en fait sortir 1000 impures bestioles que le vent des hauteurs dissémine et qui peuvent, en se répandant et pullulant par les airs, aller altérer les viandes consacrées à Dieu. Or, comme de mémoire d'Israélite, aucune mouche même ne vola jamais autour de la chair des victimes expiatoires, comment croire un évangile dicté selon vous par l'Esprit Saint, et cependant où nous relevons une aussi grossière impossibilité ? Cette objection, très inattendue, ayant interdit quelque peu les chrétiens, et ceci réaffirmant pour toute réponse l'infaillible vérité des saints livres, l'on fit venir, pour les confondre définitivement sur ce point mystérieux, un rabbin très âgé depuis longtemps captif, dont tous vénéraient la science profonde et l'intégrité. « Oh !» répondit tristement le vieil exilé, « depuis la ruine de la maison de leur père, les enfants d'Israël ont-ils donc oublié les rites du service de la maison du Seigneur ? Quoi, on n'eût pas trouvé, dites-vous, de coq vivant dans Jérusalem ? Vous vous trompez ? Il y en avait un. Et c'est bien de celui-là que ce Jésus de Ruzerat doit avoir voulu parler, puisque ce texte précise le coq et non pas un coq. Vous oubliez le grand coq solitaire du temple, le veilleur sacré, nourri des grains que lui jetaient les vierges et dont la voix s'entendait au-delà du Jourdain. Son cri matinal, mêlé au grondant fracas des portes de l'édifice rouvertes à chaque aurore, retentissait jusque dans Jéricho. Plus sonore que les sabliers, il annonçait les heures du soir avec la ponctualité des étoiles. Et la fonction de cet oiseau, crieur exact des instants du ciel, était d'avertir le préfet du temple et les lèvres vite armées dont ces appels dissipèrent souvent la somnolence du quadruple moment des rondes de nuit. C'était l'avertisseur.